On comprend, Pascal, que vous ayez été ravi d'écouter ce jeune guitariste né en 1994, Sandro Laurier, qui interprétait Un Hombre, une chanson qui est, paraît-il, beaucoup jouée par les musiciens du sud de la France. Alors, un jeune talent, ce Sandro Laurier, la région Grand Est regorge d'excellents talents. Eh bien, on en a un autre ici même à ce micro, Benoît Allaire, le directeur musical et le fondateur de La Chapelle Rénale, une institution qui n'est pas si ancienne que ça, puisque La Chapelle Rénale a été fondée en 2001.
C'est Benoît. Ça, Olivier, tout à fait, oui. Bonsoir.
Alors, on va parler bien évidemment de la Chapelle Rénale, de l'actualité de la Chapelle Rénale, mais revenons quand même au sujet qui nous concerne, l'action menée par la Chapelle Rénale dans les territoires d'Alsace et vers les publics. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites, Benoît ?
Bah écoutez, c'est assez complexe à expliquer, je vais essayer d'être aussi synthétique que possible. La Chapelle Rénale est un ensemble professionnel de musique baroque qui se consacre essentiellement au répertoire allemand et italien. Nous sommes basés à Strasbourg et depuis 5 ans à peu près, on a créé une espèce de format de concert apte à être diffusé au niveau régional. À l'époque, c'était l'Alsace. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer des petits concerts dans des structures associatives ou des paroisses ou des centres culturels, des territoires ruraux de la région. Pour que, effectivement, comme le disait Pascal tout à l'heure, que la musique ne soit pas réservée à une élite, mais qu'elle soit destinée à tous les publics. Et cette démarche, nous l'avons réactivée de manière fondamentale depuis 2017, année où à la fois la région, la DRAC et la ville de Strasbourg ont accordé leur confiance à la Chapelle Rénale à travers un conventionnement triannuel, avec évidemment un nouvel objectif, c'est de nous intéresser, pour pas dire conquérir, ce serait pas un joli mot, de nous intéresser à l'ensemble de ce nouveau territoire qui est d'une certaine manière terra incognita pour nous. Et voilà, il y a eu en 2017 les premières prémices de ce travail de diffusion de notre esthétique qui me semble digne d'être défendue au-delà de l'Alsace. On s'est produit en particulier deux fois en Moselle et l'idée c'est que d'ici 2019 on continue à intensifier ce travail de diffusion dans tous les territoires, évidemment pas que les territoires ruraux, mais tous les territoires du Grand Est, parce qu'il me semble que il faut tordre le cou à l'idée que la musique baroque c'est une musique qui est destinée au musée, qu'il faut la regarder avec respect. À mon sens, c'est vraiment un langage, c'est vraiment un moyen de communication plus efficace que le mot, puisqu'elle communique, cette musique, elle communique de l'émotion. Finalement, on peut dire ça de n'importe quel art. Hein. N'importe quel art a, comme à mon sens, première vocation de parler de la nature humaine, finalement, de manière tellement plus efficace que les mots. Mais peut-être que la musique baroque, encore plus, quand on la replace dans le contexte historique, avait cette vocation un peu comme une pionnière, finalement. Et c'est ça que j'ai envie de mettre au centre de mon projet artistique. La communication à l'heure où le virtuel nous envahit, où on pense communiquer en publiant sur Facebook ou en commentant sur Facebook, etc. On est dans une espèce d'illusion et à mon sens, il faut en revenir aux fondamentaux et à comprendre, à identifier, à reconnaître la diversité des émotions, non pas pour qu'elles nous gouvernent, mais pour qu'on apprenne à les gérer aussi.
Revenir aux fondamentaux, Pascal, ça vous interpelle ?
Ben oui, enfin tout ce que dit Benoît m'interpelle par définition. Mais oui, revenir aux fondamentaux, mais aux fondamentaux, et encore faut-il savoir quels sont-ils, hein, et mettons-nous d'accord sur les fondamentaux. Mais je partage totalement ce qu'il dit sur évidemment cette idée un peu aujourd'hui artificielle des réseaux sociaux, de la manière, etc. Et où serait l'émotion alors que l'émotion que nous pouvons vivre, c'est celle que nous avons au moment présent, devant un concert, devant une œuvre, devant un échange, lors d'un échange. Enfin, voilà, c'est celle-ci qu'il faut rechercher. Et je pense que, évidemment, comme il le dit, le baroque, c'est pas forcément la chose vers laquelle on va, enfin, tout le monde va spontanément, voilà. Alors même que c'est évidemment un moment d'émotion. Et donc, je crois que le travail qui est fait là aussi, hein, d'ouverture, de médiation vers des publics jeunes, divers et variés, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important, quoi.
Voilà. On pourra dire cela également de la musique contemporaine. On en parlera tout à l'heure avec les deux représentants des percussions de Strasbourg. Pascal, lorsque vous recevez le projet, un projet de la Chapelle Rhénane, donc d'investir des territoires autres que l'Alsace, d'aller à la conquête de nouveaux publics, puisque c'est une aussi de vos missions, on va en parler, est-ce que la région accompagne, guide, aide ?
Non, mais ça, c'est à Benoît de répondre à la question, hein. C'est pas à moi. En général...
Vous avez un rôle d'accompagnateur, quand même.
En tout cas, une chose qui est différente aujourd'hui, si je puis dire, avec la région Terra Ignota, comme l'appelle Benoît, par rapport à celle au pluriel qui précédait, c'est, je crois, la montée en expertise de nos équipes. Hein. Je pense que pendant longtemps, en tout cas pour ce qui était l'Alsace, peut-être un peu différent pour la Champagne, mais je crois que c'était assez identique en Lorraine aussi, les équipes artistiques, quelles qu'elles soient, avaient l'habitude d'aller chercher l'expertise à la DRAC, qui leur disait « Ah, c'est bien ce que vous faites, et l'argent à la région. Hein. » Je schématise, mais enfin, c'était un peu... voilà. Aujourd'hui, le fait que, évidemment, nous ayons des équipes certes réparties sur le territoire, mais que nous demandions aussi à nos chargés de mission d'être spécialisés, un peu plus spécialisés sur un genre musical, hein, sur une esthétique, etc., fait que le dialogue avec les équipes artistiques est sans doute un dialogue plus fécond. Et en même temps, les différents chargés de mission, tous les gens qui travaillent à la direction de la culture, ont également assemblé chacun entre eux une bonne connaissance du territoire. Et donc, c'est dans cette intention entre la capacité à reconnaître le travail, à bien connaître le travail d'une équipe, à bien savoir comment elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire, quel type de production, de diffusion elle peut mener, et de connaître les lieux, de connaître les acteurs sur les autres territoires. Je pense que nous pouvons, en dehors, j'allais dire, de l'argent, de la subvention, etc., fournir, en tout cas c'est ce que je souhaite avec mes équipes, fournir un appui qui est de meilleure qualité à celui que nous pouvions offrir précédemment.
Je peux qu'abonder dans le sens de Pascal. La relation avec le service de la culture de la région est effectivement très féconde. Je m'en réjouis vraiment parce que finalement, c'est un conventionnement. C'est-à-dire qu'à mon sens, il n'y en a pas un qui apporte du travail et l'autre partie qui apporte de l'argent. Si c'était ça, ce serait extrêmement réducteur. L'idée, c'est de développer des démarches en collaboration et je dirais aussi, autant que possible, de développer des synergies. On travaille très bien avec les services de la région. On commence aussi à la Chapelle Rhénane à travailler avec l'opéra, avec d'autres structures. Il y a quand même, c'est dans l'air du temps et heureusement, une tendance à fédérer un certain nombre d'opérateurs culturels et de tutelles. Et c'est absolument nécessaire que tout ça rentre dans une cohérence.
Et vous avez une convention triennale, c'est ça ?
Triennale avec...
Ça vous permet donc d'élaborer des projets sur un moyen terme.
Oui, et puis aussi de les réadapter. Je veux dire, c'est aussi ça qui est très agréable, c'est de se dire qu'on commence les choses avec un projet qui est un petit peu aussi dans les limbes encore. Je veux dire, on peut parler de l'année en cours, mais quand on développe un projet sur 3 ans, vous savez, vous comme moi, que le projet peut évoluer. Là, il y a un vrai suivi qui permet de revoir à la fois le budget, mais aussi le contenu du projet artistique d'année en année, de redéployer les choses, de contourner des problèmes, d'aborder encore plus franchement d'autres aspects qu'on aurait souhaité mais qu'on n'avait pas osé mettre dans le projet initial. Je pense en particulier à toute l'action culturelle menée en dehors de cette démarche de diffusion dans les territoires ruraux. On a vraiment investi ce terrain de l'action culturelle et de la médiation de manière très forte, avec une résidence par exemple au lycée Jean Mermoz de Saint-Louis, où 3 artistes sont présents pendant 20 jours entre le mois de février et le mois de juin prochain sur un projet qui est à mon sens très actuel, très contemporain, autour d'art baroque sur la thématique de l'amour, mais aussi de paroles recueillies dans les transports auprès de femmes qui parlent de l'amour. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les élèves de première L, en l'occurrence, première littéraire, arrivent à travailler sur ce projet qui parle de la lettre amoureuse et d'arriver à écrire eux-mêmes leur lettre amoureuse. Je pense que dans un contexte où on parle d'égalité homme-femme, de toutes ces thématiques qui sont très reliées aussi à l'émotion, qui est notre thématique essentielle, je pense que c'est un projet qui a tout à fait sa place.
Ça sera extrêmement facile d'évaluer la qualité de ce projet. On verra combien de couples se seront formés, combien de lettres auront reçu. Très, très facile.
Je vous promets de vous transmettre les informations à ce sujet.
Et d'être invité aux noces,
je suppose. Je l'espère.
Bon, on va continuer, bien sûr, à parler un peu de toutes ces actions avec nos différents invités, mais on va parler d'un événement important, Benoît. Le 28 mars, la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach à Saint-Paul.
Oui, un véritable opéra, mais un opéra de l'âme, un opéra intérieur. Et on est là aussi, d'une autre manière, certes, dans quelque chose qui peut paraître désactualisé, pardon pour les néologismes, finalement, parler aujourd'hui du jugement et de la mort du Christ, qui sait que ça intéresse encore réellement. Je pense qu'il y a une frange de la société qui est encore très intéressée par cette problématique, mais c'est pas forcément, et en tout cas pas uniquement à eux que je souhaite m'adresser. Pour moi, cette œuvre de Bach, qui est sans doute une des plus fondamentales de l'histoire de la musique, elle va plus loin, et tous ces personnages, je pense à Judas en particulier, qu'on voit toujours comme le traître, mais qui en fait était probablement le meilleur ami de Jésus, le chef, le plus proche, le trésorier de cette équipe de disciples. Ce sont des archétypes, finalement. Des archétypes de ce que nous sommes à l'heure actuelle, chacun à notre place. Et ce que cette passion souligne à merveille, c'est les relations entre ces différents personnage, et plus que de souligner encore ses relations, elle décrit avec une précision infinie, finalement, leur état d'esprit qui évolue d'instant en instant avec la musique. Et tout ça est mis en réflexion avec notre monde actuel, enfin le monde actuel intemporel, j'oserais dire, mis en perspective avec des textes poétiques qui permettent de faire le lien, finalement, qui expriment que cette musique, finalement, et que l'humanité n'a pas changé entre l'époque où les événements sont arrivés, l'époque où Bach a composé cette musique, l'époque où aujourd'hui on l'interprète.
C'est le propre des chefs-d'œuvre d'avoir une résonance contemporaine.
Contemporaine et universelle, absolument. Universelle.
Ouais. Bach, l'œuvre, cette passion selon saint Matthieu, a été mal reçue à l'époque de la création.
C'est Bach globalement qui était assez mal reçu.
Voilà. Il y a trois versions de cette passion. Vous en proposez une des trois ou vous en proposez une quatrième ?
À mon sens, il y en a une version définitive, puisqu'il y a un manuscrit rédigé par la main de Bach lui-même, ce qui n'est pas le cas pour ses autres oratorios, par exemple la Naissance, qui est fragmentaire, en tout cas divisée dans le temps, ni pour la Saint-Jean, qui a effectivement trois ou quatre versions. Là, on propose la version habituelle, tout à fait standard, mais dans une interprétation qui n'est pas standard. Et là, je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En outre les 49 musiciens professionnels qui seront sur la scène de l'église, dans le cœur de l'église Saint-Paul, le 28 mars, nous avons jugé bon de faire appel à deux éléments extérieurs. En l'occurrence, vous savez évidemment que dans cette œuvre, il y a un chœur d'enfants. Nous avons proposé à deux classes de CM2 de l'école Fichard de la Méno de participer à ce concert en interprétant ce chœur Ripieno. Vous savez que c'est un QPV, donc quartier prioritaire de la ville, et que nous avons déjà fait beaucoup de travail avec ce réseau éducatif l'an dernier à travers un Roi Arthur exécuté par 400 élèves à la salle de Pôle Sud. C'est le prolongement de ce travail qui se fait cette année avec cette participation à la Passion. Et puis par ailleurs, les chorales qui sont des moments de, un peu finalement, la même chose que le chœur dans la tragédie grecque. Il y a ces moments de réflexion, comme je le disais tout à l'heure, qui sont incarnés à la fois par les airs de solistes et par ailleurs par les chorales qui sont, en fait, dans le cadre de la liturgie du Vendredi Saint dans lequel s'inscrivait à l'époque l'œuvre La Passion. C'est les moments où l'assemblée chante, finalement, comme aujourd'hui encore lors des cérémonies religieuses. C'est le moment, donc, où on a eu l'idée de se dire, finalement, c'est dommage si seulement les 17 chanteurs de la chapelle Rhénane sont là pour incarner ces chorales. Et l'idée a été de créer un chœur, de regrouper des amateurs autour de Clotilde Gabory et de son chœur qui s'appelle Motus. Qui vont former le noyau dur de cet aspect choral. Autour de ce chœur Motus, il y aura des éléments également de Lévus, l'ensemble vocal universitaire de Strasbourg, et quelques-uns du chœur Notre-Dame de la cathédrale. Et enfin, on a proposé à travers notre site internet à un certain nombre d'amateurs de rejoindre cet ensemble ad hoc, pour ainsi dire, créé pour l'occasion. Et nous serons donc 50 professionnels, plus près de 90-100 choristes, donc 150 musiciens sur la scène.
C'est ce qu'on appelle le chant participatif.
Voilà, c'est ça. Et donc le 20... C'est dans l'air du temps, mais oui, c'est au-delà de ça. Absolument. Au-delà de ça, je pense que c'est vraiment la vocation d'un ensemble comme le nôtre et de toute démarche culturelle à l'heure actuelle. Vous savez, quand il s'est agi de... Je pense que beaucoup de gens savent que la Chapelle Arénale a traversé des années difficiles il y a quelques années, elle a traversé son adolescence. Quand il s'est agi de recruter pour la première fois de nouveau un permanent, et de ne plus se reposer uniquement sur les bénévoles de l'association, qui font d'ailleurs un travail remarquable encore aujourd'hui, la Chapelle Arénale, au lieu de recruter un administrateur, a jugé plus opportun de recruter un médiateur culturel. Parce que ça requiert une expertise finalement qui est aujourd'hui encore un métier nouveau, mais qui est, à mon sens, non pas une opportunité, mais vraiment une responsabilité dans le travail de l'artiste. C'est fini le temps où l'artiste peut se permettre d'être dans sa tour d'ivoire, de créer des interprétations que lui seul, ou éventuellement quelques autres, trouvent géniales, pour un public de niche. Aujourd'hui, il faut sortir, il faut faire en sorte, non pas de construire le public de demain, ce qui est une expression absolument absurde et très égocentrique, mais de faire en sorte que ce patrimoine culturel soit défendu pour le bien du plus grand nombre.
J'avais oublié, Benoît, que tu étais intarissable et enthousiaste.
Je suis absolument navré.
On va écouter. Vous y serez à cette passion, Pascal ?
Si je peux, bon, c'est Stéphane qui est dans la salle qui décide. Voilà. Donc si j'y suis, c'est grâce à Stéphane. Et si j'y suis pas, c'est aussi à cause de Stéphane. Voilà.
Bon.
Que les choses soient dites.
Parfait. Ben, on va écouter un extrait de cette passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach, enregistré à Royaumont lors du festival.
Effectivement, nous avons créé cette passion, enfin une première interprétation en 2009, à la fin de notre résidence au Royaumont, qui a duré 3 ans et où il s'est agi en particulier de faire ce passage à la maturité entre le répertoire du XVIIe siècle, Schütz et Monteverdi, vers Bach. Et donc c'est un concert de septembre ou octobre 2009, donc presque 10 ans.
Enthousiaste et intarissable, je
maintiens. Pourtant, j'ai essayé de faire tout.
Thank you.
Un extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach par la chapelle Rhénane, placée sous la direction de Benoît Allaire, qui était donc notre invité. Un enregistrement réalisé à Royaumont et une Passion que vous pourrez aller entendre le 28 mars prochain à Saint-Paul. Et allez-y, très nombreux, c'est l'un des chefs-d'œuvre de la musique baroque. De temps en temps, écoutez cette Passion, ça fait toujours du bien à l'âme.